Bonjour et bienvenue dans le podcast de contournement sur le no-code. Je m'appelle Alexis et dans cet épisode, on fait un focus sur Notion, qui est un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise énormément dans mon quotidien, que ce soit pour mon orga perso ou celle du projet contournement. Alors pour en parler, comme d'habitude, j'ai invité un expert, et cette fois c'est Jérémy Foucret de The Toolbox qui va tout me raconter sur Notion. Et vous allez voir qu'il maîtrise vraiment le sujet, maîtrise parfaitement l'outil, et puis l'organisation et la productivité en général. D'ailleurs, dans cet épisode, on va aller plus loin que juste parler d'un outil, on va aussi parler de la notion de WorkOS, que j'ai trouvé assez passionnante. Donc, je vous en dis pas plus, mais si vous avez envie de savoir un peu quelques astuces, comment mieux travailler tout seul et avec votre équipe, bah vous allez être servi avec cet épisode. Salut Jérémy, merci de m'accueillir chez toi à Bruxelles.
Merci.
Tu es le cofondateur de The Toolbox et donc une de vos spécialités, c'est de conseiller les entreprises sur leurs outils et donc notamment pour les aider à améliorer leur organisation interne et puis gagner en productivité. Et donc tu vas nous raconter tout ça, ensemble on va faire un focus sur Notion, donc un outil que vous maîtrisez particulièrement puisque vous êtes même Certified Consultant. Et donc, on va pouvoir bien en parler en détail. Et surtout, moi, j'y tiens parce que c'est un outil que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis pas mal de temps, depuis un an et demi à peu près. Je sais même pas depuis quand ça existe, tu nous diras tout à l'heure. Et alors, c'est pas forcément un outil no-code, on en discutait un petit peu tout à l'heure. Toi, tu le qualifies un peu dans cette idée de WorkOS. Donc ça, c'est une notion qui m'intéresse pas mal, que tu vas développer. Donc voilà, c'est un outil un peu no-code, on va dire au sens large, je trouve, parce que c'est quelque chose que vraiment tous les no-codeurs, à mon avis, devraient utiliser pour l'organisation perso, et pas que les no-codeurs. Je trouve que c'est quelque chose c'est un outil qui mérite d'être vraiment connu par tout le monde. Donc, on va y dédier un épisode. Alors, pour commencer, je te propose de te présenter. Hein.
Eh ben, salut Alex, je suis donc Jérémy, j'ai créé une boîte qui s'appelle The Toolbox, et... Avec The Toolbox, on accompagne les dirigeants de PME dans leur transformation numérique, surtout le volet outils, en fait. On s'est rendu compte que y avait énormément d'outils et que c'était très difficile à prendre en main pour des entreprises plus traditionnelles. Et donc aujourd'hui, nous, on a construit des produits d'audit et d'accompagnement pour les aider à trouver les bons outils et puis à les mettre en place pour gagner rapidement en efficacité et construire donc cet environnement de travail, ce WorkOS, Operating System, dont tu parlais il y a 30 secondes.
Ok, donc il y a pas mal d'outils, j'imagine. On pourra en parler un peu plus tard. Alors, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque Notion donc, est un des outils, j'imagine, que vous utilisez vous et que vous prescrivez à vos clients, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots très simples, comme si j'avais 5 ans, qu'est-ce que c'est Notion ?
Ouais, bien sûr. Alors, Notion, en fait, c'est une plateforme qui va rassembler sur un espace de travail collaboratif des fonctionnalités de gestion de projet, de prise de notes, de stockage de documents et de base de données. En fait, c'est assez exceptionnel parce que c'est un des seuls outils qui permet de faire tout ça en même temps. Donc l'idée derrière Notion, c'est d'être capable d'arrêter de switcher entre tes tabs en fait sur son navigateur internet, d'arrêter de switcher entre ton application de gestion de projet, ton application de documents et de pouvoir tout faire en fait au sein de la même appli.
C'est pas évident parce que c'est un peu l'exercice du podcast. Je me rends compte à chaque épisode que j'enregistre quand on parle des outils, c'est que tout ça, c'est des choses qui sont hyper visuelles. Donc il va falloir, on va essayer d'imager un peu tout ça. Est-ce que vous, par exemple, je sais que vous faites des vidéos sur les outils, est-ce que vous avez des vidéos sur Notion éventuellement que...
Ouais, on a fait des vidéos sur Notion et on est en train d'en préparer encore plus. En fait, c'est un outil qui est extrêmement visuel, Notion. Ouais. Donc, c'est pas forcément facile de se rendre compte, mais en même temps, si tu vas sur leur site, t'as une sandbox, donc un bac à sable. Tu peux tester l'outil sans t'inscrire. Il y a une espèce de version démo intégrée dans leur site web. Donc, le plus simple pour tester et se faire une idée, c'est d'aller là-dessus.
D'ailleurs, quasiment tout leur contenu est construit avec Notion, en fait.
Alors, c'est un peu des fous chez Notion, ils utilisent que Notion. Ils l'ont tordu dans tous les sens, ils font tout avec, que ce soit le customer support, que ce soit les roadmaps produits, que ce soit la gestion des bugs, ils font tout avec Notion. Donc c'est vrai que c'est un outil qui a énormément de potentiel avec lequel c'est possible de faire beaucoup de choses. Et donc voilà, eux sont la preuve qu'il y a moyen en tout cas.
Et alors justement, vous, parle-nous un petit peu plus de The Toolbox et là-dedans, un peu, de, si tu as des exemples de ce que vous avez pu faire avec Notion.
Alors du coup, nous on prend un peu cet exemple là, on essaye de tout faire avec aussi. L'endroit où ça nous simplifie surtout beaucoup la vie et où c'est très efficace pour nous, c'est qu'on l'utilise pour faire des espaces clients. Donc en fait, il y a une fonctionnalité dans Notion qui est extrêmement puissante, c'est celle des modèles, donc les templates en anglais. Alors il y a une grande variété de modèles qui sont déjà construits à l'intérieur de Notion. Je pense qu'il doit y en avoir au plus d'une cinquantaine pour différents usages, pour les ingénieurs, pour le produit, pour les RH, pour les podcasts aussi. Donc tu peux avoir en fait déjà tous les templates qui existent et ensuite tu peux créer tes propres templates, ce qui est assez puissant. Et donc nous, on a créé nos propres templates sur tout ce dont on avait besoin. On a des templates côté marketing pour la production de contenu, on a des templates surtout pour nos espaces clients, et à l'intérieur de ces templates, en fait, on a construit nos propres produits avec des modèles.
Et donc, est-ce qu'ils sont publics, ces templates
Alors, ceux des... Non, pas ceux-là.
Pas
nos espaces clients, ils ne le sont pas.
Non, mais je veux dire, parce que les templates sont dédiés à vos clients.
Ouais, vraiment. Donc, en fait, si tu veux, on a aujourd'hui un modèle d'espace client, c'est-à-dire qu'il y a une base de données dans laquelle il y a nos clients. Et donc, quand on crée un nouveau record dans cette base de données, on peut choisir le modèle qu'on veut utiliser. Et donc, on a un modèle qui s'appelle espace client.
D'accord.
Et donc, en cliquant sur ce modèle, si tu veux, tu as toute une série d'éléments qui va s'ajouter automatiquement avec des bases de données relationnelles. Donc alors là, on rentre un petit peu dans une partie qui est difficile à imaginer, mais il faut se rendre compte que c'est comme si on avait créé une application et qu'en appuyant sur un bouton, on dupliquait cette application pour l'adapter aux besoins d'un nouveau client. Donc ça nous permet de gagner beaucoup de temps et ça nous permet aussi de renforcer la confiance qu'il y a avec nos clients quand ils travaillent avec nous, parce qu'on peut leur montrer dès le début à quoi ça va ressembler. Eux peuvent suivre toute leur mission en direct aussi, parce que Notion, c'est un espace de travail collaboratif. Donc on peut inviter le client sur son espace et on peut collaborer avec lui tout au long de la mission. Donc ça raccourcit pour nous énormément le temps de mission. Ça nous permet aussi d'être plus efficace et de pouvoir proposer des tarifs plus intéressants. Et tout ça, on le fait grâce à Notion.
Avant, c'est peut-être des choses qu'on aurait fait avec un dossier Drive partagé avec plusieurs documents, avec une Google Sheet pour faire le tableau de budget prévisionnel, des docs qui est...
Ouais.
Et là, on a tout,
typiquement,
on intègre
c'est ça,
tout
ouais.
en un, quoi.
Typiquement, je pense que c'est exactement ce qu'on aurait fait avant, avec le souci que tu n'as pas une vue d'ensemble, en fait. Et donc, la manière dont ça se représente chez nous aujourd'hui, c'est que en fait, dans cet espace client, on a plusieurs autres templates qui correspondent aux produits qu'il y a chez The Toolbox. Donc, on a par exemple de l'audit ou de l'accompagnement. Et donc, dans ton template d'espace client, tu vas pouvoir créer des programmes ou des missions pour le client. Et donc, on peut créer une mission d'audit, par exemple, pour un client. Et s'il redemande un autre audit spécifique 2 mois plus tard, on appuie sur un bouton et ça recrée un autre audit. Et dans l'audit, y a déjà toute la structure d'audit qui est prête avec toute la gestion de projet.
Comment ça se passe un petit peu, alors, un audit que vous faites pour savoir aussi un petit peu plus vraiment concrètement ce que vous faites, quoi.
Alors, en fait, si tu veux, le but des audits qui sont menés par The Toolbox, c'est de comprendre comment les collaborateurs travaillent, avec quel type d'outils est-ce qu'ils bossent, quel est leur niveau de maturité digitale. Donc pour ça, on va les interroger, leur poser des questions, passer du temps avec eux au téléphone ou en vrai, et essayer de comprendre un petit peu quelle est leur manière de travailler. Et donc en fait, en rassemblant toutes les informations sur la manière de travailler de chacun, on arrive à avoir des tendances et à comprendre exactement quel type d'outils est-ce qu'on va pouvoir leur recommander, et puis évidemment aussi les failles, un petit peu les points bloquants dans l'organisation de chacun. Donc ça donne des petites anecdotes très marrantes, parce que en fait, à la base, on interroge les dirigeants et on leur demande quels problèmes ils pensent qu'il y a dans leur boîte, et on a toujours du coup une liste de problèmes qui est dans 100% des cas assez différente des problèmes qu'on va aller sur ce niveau opérationnel, en fait. Donc les collaborateurs disent pas du tout la même chose que les dirigeants, c'est ça qui est très drôle. Okay. Parce qu'il y a des boîtes qui se concentrent vraiment sur le côté dirigeant. Et beaucoup de boîtes d'audit, en fait, vont se concentrer soit sur les chiffres, soit sur les dirigeants. Alors qu'en fait, si tu veux travailler sur les outils, le seul moyen de le faire correctement, c'est de travailler au niveau opérationnel avec les gens, vraiment. Et donc, ça, en fait, je pense que si on n'avait pas cette organisation-là, ça nous coûterait très cher. Enfin, et ça coûterait très cher aux clients. Et du coup, comme on est bien organisé, bah, c'est quelque chose qu'on arrive à faire.
C'est ça. Et donc, Notion vous supporte là-dedans. C'est-à-dire que vous avez bien processé déjà vous-même, organisé ça. Et le support, c'est Notion. Et donc, vous déroulez, vous stockez dedans les informations que vous récoltez. Et puis, vous suivez votre trame.
Exactement, ouais. Et je pense que c'est une grande tendance de ce qui est possible. Enfin, c'est quelque chose qui est rendu possible par les outils aujourd'hui. Notion, je pense que c'est un très bon exemple de ça, mais c'est possible de le faire aussi avec d'autres outils. Tu vois, aujourd'hui, un outil comme Monday.com, par exemple, se définit vraiment comme un work OS. Ça fait partie de leur jargon, c'est ce qu'ils expliquent sur leur site. Je pense que c'est une des premières phrases que tu vois. C'est « We are the modern work OS » ou un truc comme ça.
Ok, parce que moi, c'est vrai que Monday, pour moi, je l'avais associé comme un outil de gestion de projet. Alors que c'est plus que ça, quoi.
Aujourd'hui, c'est plus que ça, ouais. T'as des fonctionnalités d'automatisation, t'as quand même beaucoup de fonctionnalités de partage pour inviter tes clients ou pour faire juste visiter des pages. T'as beaucoup de types de données différentes aussi. Donc, je pense que ça devient plus qu'un simple outil de gestion de projet.
Ok. Et en quoi tu le... Enfin, quelle est la différence alors avec Notion, par exemple ?
Alors moi, ce que j'aime particulièrement avec Notion, c'est le potentiel du bazar, quoi. C'est-à-dire que au niveau de la prise de notes, par exemple, ben, tu vois, je pense que ça dépend aussi des outils que tu utilises autour. Mais nous, on est sur une stack avec G Suite, donc qui est un des seuls outils qui a moyen d'intégrer avec Notion. Donc ça, c'est déjà très bien. Et puis après, pour le site web, on a Webflow. Et donc, en fait, sur Notion, quand tu écris des notes, c'est écrit en Markdown. Donc c'est un langage spécifique qui est le même que pour le web. Ça veut dire que si on écrit des notes dans Notion, même avec les images, il me suffit de faire un copier-coller de tout ça, de le mettre dans Webflow et j'ai un article. Et j'ai pas à formater, j'ai rien à faire. Je le formate d'un côté, je le mets de l'autre, c'est déjà formaté, j'ai plus qu'à cliquer sur
c'est un formatage qui est bien standardisé, quoi.
Exactement.
Pas comme un document Word où quand tu fais un copier-coller,
c'est un vrai bazar. Pour ceux qui connaissent les langages et les balises HTML, t'as ton H1, H2, H3, t'as ton texte, t'as tes images, t'as tes listes à puces ou tes listes numérotées, et tout ça s'intègre très très bien. Donc c'est un truc que j'adore. C'est une des grosses différences avec la plupart des outils de gestion de projet. Il y a ClickUp aussi qui est pas mal dans le genre et qui rassemble beaucoup de fonctionnalités différentes. Mais en fait, ce que j'aime chez Notion avant tout, je pense que c'est la philosophie de l'outil. C'est-à-dire que c'est un outil qui est très minimaliste en fait, dans la manière dont il est présenté, qui a beaucoup de fonctionnalités, mais qui paraît très simple.
Justement, alors expliquons un petit peu comment ça se passe. Si on essaye, encore une fois avec ces difficultés, de le faire à la voix, mais tu arrives sur une page blanche de Notion. Peut-être si on peut déjà, d'ailleurs il faut peut-être préciser, comment ça s'organise. Donc tu as un workspace, il me semble, je ne sais plus ce que c'est.
Tu as un espace de travail. Pour ceux qui sont familiers avec Slack, par exemple, c'est plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que sur Notion, tu vas pouvoir avoir plusieurs espaces de travail différents. Et donc dans chaque espace de travail, tu vas avoir des membres. Donc exactement la même chose que les différentes communautés sur Slack. Et donc dans un espace de travail, c'est une application qui a un volet sur la gauche comme beaucoup d'applications, et donc dans ce volet sur la gauche tu vas retrouver des pages, tu as tes pages favorites, tu as des pages qui font partie du workspace, donc ça c'est les pages qui sont accessibles à tous les membres de l'espace de travail. Ensuite, tu vas avoir des pages qui sont partagées, donc ça c'est des pages qui sont accessibles uniquement à certains membres de l'espace de travail, et puis des pages privées qui sont accessibles uniquement à toi, et puis tu as tout ce qui est modèle. Donc les templates en fait.
Qui sont des pages en réalité. L'unité de base, enfin c'est pas l'unité de base, l'unité de base c'est le bloc, ça on va en parler après.
Ouais.
Mais vraiment l'unité un peu standard de Notion, je trouve que c'est la page.
C'est la page.
C'est le conteneur qui après va contenir du contenu.
Exactement.
Et une page peut contenir des pages.
Exact.
C'est là où il va falloir expliquer un petit peu ça. Si on est sur une page blanche, on commence à taper du texte, comment ça fonctionne tout.
Alors en fait, il y a plusieurs manières de démarrer. Donc on démarre sur une page. La question c'est, est-ce que dans cette page, on va mettre une base de données ? Ou est-ce que dans cette page, on va mettre du texte ? Et donc, on est assez libre, en fait.
On peut faire les deux aussi.
On peut faire les deux. Mais en fait, du coup, dans la notion de base de données, tu as ce qu'on appelle des bases de données inline ou full page. Et donc, tu peux créer une page qui n'est qu'une base de données, ou tu peux créer une page qui va avoir toutes les données que tu veux, dont une base de données de la gestion de projet, des éléments que tu vas intégrer, etc. Et en fait, moi, ce que je conseille toujours aux gens qui démarrent avec Notion, c'est de commencer par utiliser les modèles. tu peux démarrer avec un modèle, en fait. Mmh. Et donc, je pense que le meilleur moyen pour se faire une bonne idée et pour apprendre à dompter un peu l'outil, c'est de commencer par utiliser les modèles, voir comment ça fonctionne. Et après, une fois qu'on a une idée un petit peu plus claire de ce qu'on a envie de développer, alors à ce moment-là, on peut commencer à tester par soi-même.
Je pense que tu as tout à fait raison, parce que ça permet de comprendre par l'exemple. Parce que c'est vrai que si on est face à la page blanche, on ne va pas forcément comprendre la potentialité de Notion. Et c'est quelque chose qui est intéressant, parce que c'est vraiment quelque chose qui est puissant. Et donc, pour préciser vraiment cette notion, c'est que, enfin, on va dire notion à chaque fois, mais c'est donc le bloc, en fait, à chaque fois que tu commences à taper, par exemple, un texte, en fait, c'est un bloc texte, quoi. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant. C'est pas forcément évident à expliquer comme ça visuellement, mais enfin, sans le visuel. Mais voilà, cette notion de bloc, je sais pas si tu veux expliquer un peu.
Ouais, bien sûr. Alors, donc, du coup, c'est vrai que tout fonctionne par bloc quand t'es sur une page blanche. Si tu décides de pas travailler avec une base de données, et donc dans une base de données, tu vas avoir je sais pas comment on dit en français, mais c'est des records, en fait. Mais donc, si tu décides de travailler sur une page blanche sans base de données, tu vas en effet avoir ce qu'on appelle des blocs. Donc, ces blocs, ça peut être plus ou moins n'importe quoi. Ça peut être du texte avec un traitement qui est appliqué à ce texte, donc ça peut être un titre, un sous-titre, un sous-sous-titre, une liste à puce, etc.
Une to-do list, par exemple, des cases à cocher.
C'est ça, des cases à cocher, une to-do list, ou un embed, donc une intégration d'un document, par exemple, ou une intégration d'une vidéo. Et donc, en fait, tout fonctionne par bloc. Et ces blocs, ensuite, tu vas pouvoir les déplacer pour changer un petit peu ta structure, faire ta mise en page, etc. Et ces blocs, si c'est du texte par exemple, tu vas aussi pouvoir leur appliquer des traitements spécifiques, changer la couleur, souligner, mettre en gras, etc. Et donc c'est vrai que tout fonctionne en blocs, et ces blocs vont te permettre de créer la structure que tu veux. Et donc par exemple, si tu veux faire des colonnes, si tu prends un bloc, tu le déplaces à côté d'un autre et automatiquement tu vas créer deux colonnes. Et en fait, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, c'est très très simple à utiliser.
Ouais. C'est très simple et très puissant, et moi je trouve que c'est hyper agréable. Enfin, moi je supporte plus d'aller maintenant dans Google Docs et essayer de faire des mises en page, etc. Maintenant que j'ai trouvé ça, je trouve que c'est un truc extraordinaire, quoi. Ce paradigme des blocs. Alors je sais pas si c'est d'ailleurs, je sais pas qui l'a inventé, parce que moi la première fois que j'ai vu ça, en fait, c'est dans Ghost, le moteur de blog.
CMS.
Ouais, le CMS Ghost, qui ensuite est aussi arrivé dans WordPress. Puisque là, leur moteur Gutenberg, c'est aussi cette idée de tout construire par bloc. Donc, je ne sais pas qui vraiment a inventé ce système-là, mais...
Alors, je ne sais pas exactement non plus. Je pense qu'il y a une grande tendance derrière ça. C'est le fait de considérer chaque donnée comme un objet, en fait. Ouais. C'est quelque chose que tu retrouves aussi facilement chez Airtable et même encore maintenant plus fort chez Notion quand tu regardes dans les bases de données, où chaque record que tu vas créer dans une base de données est vraiment un objet et peut se comporter comme tous les autres, en fait. Ouais. Et cette manière de tout traiter par bloc, je pense que c'est un peu un truc de dev à la base. De vouloir tout gérer de la même manière et tout catégoriser, de se dire oui, c'est un texte, mais avant tout c'est un bloc.
Ouais, c'est ça, c'est un bloc de type texte.
Exactement, ouais.
Ouais. J'avais jamais réfléchi
en fait
à ça comme ça.
Moi j'adore ce côté là, je suis un gros fan de Lego. Je sais pas si t'as vu, j'ai une petite collection de Lego là derrière.
Ah, non, j'avais pas vu encore.
Et je suis un gros gros fan de Lego. J'adore en fait l'idée de pouvoir tout construire avec des blocs. Et c'est vrai que pour moi, ça rend les choses plus simples. Et comme tu disais tout à l'heure, maintenant, quand je vais dans Google Drive, je pète un plomb. Vraiment, parce que créer des dossiers à gauche, à droite, c'est tellement... tu peux faire la même chose avec Notion. Aujourd'hui, au niveau stockage de documents, t'es pas limité en plus. Nous, on stocke tout dans Notion. Nos bases de données, elles sont dans Notion. Les documents, ils sont dans Notion. Et tu peux intégrer en plus des documents du Google Drive. Ouais. Directement avec le lien. Donc,
c'est vraiment la puissance. Enfin, ça, après, il faut vraiment que les auditeurs testent vraiment ce truc de bloc. Mais moi, c'est vrai que je trouve ça incroyable, par exemple, qu'on puisse stocker des fichiers. Donc, il y a un bloc de type fichier. Ouais. Donc, il faut juste de drag and dropper son fichier et les stocker. Et c'est tellement plus simple que l'héritage des dossiers dans le Google Drive ou sur son ordi, dans Dropbox, tout ça. Enfin,
c'est
une nouvelle manière de présenter les données.
Et ce qui est génial aussi, c'est que quand tu vas intégrer des fichiers, imaginons par exemple des images, tu peux travailler avec le lien. Donc, c'est-à-dire que, pour te donner un exemple, quand on fait de la recommandation d'outils, on intègre toujours des captures d'écran ou des captures vidéo des outils pour que déjà depuis l'espace de travail sur nos chaînes, ils puissent se faire une idée de ce à quoi ça ressemble. Et ces captures d'écran, il n'est pas question de les télécharger sur mon ordinateur et puis de les intégrer sur Notion. Je vais juste aller sur Google Images, je vais copier le lien de l'image et quand je vais ajouter un bloc image dans Notion, il va me demander d'où, enfin quelle est la provenance de l'image. Est-ce que je veux la télécharger depuis mon ordinateur? Est-ce que je veux la sélectionner sur Unsplash, qui est un moteur de recherche d'images? Ou est-ce que je veux ajouter un lien d'Internet? Et donc là, je sélectionne ajouter un lien d'Internet, je colle le lien et l'image d'Internet, elle se met dans Notion. Et du coup, voilà, je n'ai pas à télécharger des trucs, à faire des copies, à avoir des dossiers pleins d'images, à devoir supprimer des trucs tout le temps.
Ouais, effectivement, ça, c'est vrai que c'est hyper pratique. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est dans la même idée, quand tu copies un lien, par exemple, vers Twitter, il va te faire un joli embed du tweet. Tu vois, et enfin, il y a plein de choses comme ça, pareil avec une vidéo YouTube, ou un screencast avec Loom. Et donc, ça, c'est vrai que cette richesse. Enfin, on a une espèce d'assistant, quoi. On met du contenu et puis il va se retrouver bien formaté. On peut faire ses colonnes, comme tu disais. Ça, c'est vachement pratique aussi, quoi.
Ouais, c'est vraiment bien pensé. Et ce qu'il y a aussi qui est génial, c'est cette notion de publication. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ta page sur Notion et qu'elle est belle et qu'elle est comme tu veux, tu appuies sur deux boutons et tu peux partager ta page à qui tu veux. Alors, tu peux la rendre disponible sur les moteurs de recherche, déjà. Ça veut dire qu'elle va être accessible depuis Google. Ce qui à terme pourrait presque remplacer les sites web, en fait, quand on y réfléchit, tu vois. Moi, j'ai conseillé des entrepreneurs qui lançaient leur projet, et je m'avais dit, mais si tu sais pas créer de site web, avant de te lancer là-dedans ou de faire appel à quelqu'un, tu crées ce que tu veux sur Notion s'il y a moyen, et puis tu vois, et t'envoies aux gens un lien Notion, pour le début, ça peut t'aider, quoi. Et
comme tu disais tout à l'heure, Notion, c'est comme ça qu'ils ont construit leur site, quoi.
Ouais, exact.
Ouais, vraiment, ça marche bien. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais dans un sens, ça, c'est quelque chose qui fait un peu un website builder, no code, et hyper flexible, quoi.
Hyper flexible. Et il y a beaucoup d'entreprises, surtout de la tech américaine, qui partagent des choses via ça. Alors, il y a Comet qui le fait beaucoup en France. Tous les lundis leur CMO qui partage sur LinkedIn des petits cadeaux, généralement des docs Notion avec leur organisation interne ou des listes de lecture d'articles très intéressants. On lui dit bonjour d'ailleurs. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui peut se développer et qui donne le pouvoir, la capacité à n'importe qui de pouvoir publier, en fait, de pouvoir partager des choses, de les mettre directement en ligne à disposition des gens sans devoir passer par WordPress, sans devoir payer un abonnement, avoir un domaine, qui sont des choses qui me paraissent en fait de plus en plus compliquées. Je pense qu'on va vers, avec un outil comme Notion, vers de la publication hyper simple. Moi, le use case que je préfère de Notion, c'est pour les étudiants. Si on avait tous Notion pendant nos études, si les unifs, en fait, Notion est gratuit pour les étudiants. Donc, il suffirait juste que les unifs disent, mais utilisez Notion, mettez tous vos cours sur Notion, partagez tout.
En termes de prise de notes, de prise de notes augmentée, quoi. Là, on est vraiment.
Carrément.
Moi, j'ai suivi une formation l'année dernière et j'ai tout pris tous mes notes, organisé tous mes cours, etc. Sur Notion, c'était génial, quoi. Et maintenant, quand j'y reviens, je veux me souvenir d'un truc. Puis j'ai mis les presques, les intervenants nous ont donné. Enfin, ouais, non, c'est.
Ouais, puis après, tu as une fonction de recherche qui est hyper puissante. Donc, peu importe la taille de ton espace de travail, si tu cherches quelque chose et que tu te souviens de quelques mots, tu tapes les quelques mots, il va te sortir tous les documents. En plus, tu peux chercher avec des filtres et des critères de sélection. Ça veut dire que si tu veux chercher juste dans un dossier spécifique, tu peux aussi.
Ouais, non, c'est, le moteur est bien fait. Ouais. Je pensais à. Il y a quelque chose qui m'échappe maintenant, donc c'est pas grave. Il y a un point sur lequel je voulais revenir, peut-être où on peut un petit peu plus détailler, c'est les bases de données, comme tu disais. Je crois qu'ils appellent ça table, c'est le bloc table. Quoi.
Ouais, exact.
Et qui est en fait extrêmement puissant, parce que pour moi, c'est un mini Airtable, quoi, littéralement.
C'est un mini Airtable. Alors pour se rendre compte, donc c'est une base de données, c'est un tableur, ça ressemble un peu à un Excel, à la différence près que sur Excel on met ce qu'on veut dans chaque case, alors qu'ici c'est vraiment une base de données. C'est-à-dire que
c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment plus côté Airtable
plus sur Airtable, ouais. Et donc on va pouvoir choisir ce qu'on appelle des propriétés. Donc les propriétés, c'est les colonnes, en fait. Et donc ça peut être des chiffres, ça peut être ce qu'on appelle des selects, ça peut être du multi-select, donc un choix multiple à travers des critères déjà définis, ça peut être un petit peu ce qu'on veut, ça peut être du texte aussi, ça peut être de la monnaie, et bref, il y a moyen d'organiser donc toute une bibliothèque de données là-dessus. Et ce qui est génial, c'est que quand on ouvre une donnée, on se retrouve sur une page. Et donc, dans une donnée, on peut ajouter des données. Si on veut, dans la page, on peut rajouter une page. En fait, il n'y a pas vraiment de limite, quoi. C'est très, très, très puissant.
Ça, quand j'ai compris que chaque ligne de mon tableau était en réalité une page, c'est là où j'ai une espèce d'explosion mentale.
Ah, c'est Inception, en fait.
Ouais, exactement. C'est... Mais c'est une puissance incroyable, quoi. Enfin, non, les tableaux, par exemple, un tableau avec nos formations. Et puis, dans chaque ligne, en fait, il y a tout le programme de la formation, quoi.
C'est ça. Et donc, en fait, tu te retrouves avec une toute petite base de données. Tu as un petit tableau, mais en fait, si ça se trouve, ce tableau, il y a énormément de choses dedans. Et c'est exactement ce qui se passe avec nos espaces clients, en fait. C'est un petit tableau, tu cliques dessus, et en fait, dans ce tableau, on peut pas imaginer juste la quantité d'autres templates, d'autres données qu'il peut y avoir en fonction des audits ou des différents produits. Et même, tu vois, quand dans un audit, tu as le tableau de la gestion de projet qui s'affiche avec toutes les différentes tâches. Mais dans chaque tâche, tout est déjà calculé, en fait. Il y a déjà tous les éléments dont on va avoir besoin. Et donc, en fait, tu gagnes un temps fou. Moi, je pense à ça pour n'importe quelle boîte, en fait, qui a quelques process qui ne sont pas spécialement complexes, mais pour lesquels il faut reprendre des documents à chaque fois, des documents types. Alors, il suffit juste de mettre ça en place et c'est tellement simple. Et il y a un bloc aussi qui s'appelle template. Et donc qui n'est pas une page template, il faut faire la différence entre les deux. Tu as des pages de template qui sont donc une page complète, et tu as des blocs de template que tu peux ajouter sur les pages pour créer sur la page un ensemble de blocs.
D'accord, ok.
En appuyant sur un bouton.
Ok, ouais. J'ai appris quelque chose. Donc, d'accord, donc tu peux faire des templates de blocs, enfin un ensemble de blocs. S'il y a un ensemble de blocs que tu utilises souvent.
C'est ça.
Okay.
Donc
c'est génial.
Imagine pour les missions, par exemple, sur notre espace de travail. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui est le plus parlant pour moi. Donc, tu as cette page espace de travail du client où il a une petite vidéo pour introduire l'espace de travail et pour lui montrer comment fonctionne Notion. Il a trois petits liens pour aller sur des pages avec les informations de l'entreprise et les documents importants comme les factures, les devis, etc. Une page avec la liste de contacts des personnes qu'on connaît dans l'entreprise pour qu'on puisse les appeler facilement. Et une page avec les missions qui ont été déjà faites et qui sont du coup archivées. Ensuite de ça, tu as juste des blocs template. Et donc tu peux dire par exemple créer une mission d'audit. Et quand tu crées une mission d'audit, c'est un template qui va s'ajouter avec la gestion de projet, donc un tableau avec toutes les tâches qui sont réalisées ou de base dans un audit, et puis le sujet de l'audit, le type d'outils recherchés, etc.
Et ce template de blocs, il est propre à ta page ou à ton espace de travail?
Il est propre à ma page.
D'accord.
Ouais,
parce que sinon, ça peut être vite le bordel, quoi.
Ça peut être vite le bordel.
Donc, juste dans une page. Alors, comme on disait, une page, ça peut être. C'est beaucoup de choses, puisque à l'intérieur, après, il y a des pages. Mais, d'accord.
Et du coup, quand tu crées des templates, tu peux avoir des bases de données relationnelles à l'intérieur de ton template. Ça veut dire que tu peux, donc dans ton modèle, tu vas connecter deux bases de données entre elles qui sont connectées dans ce modèle-là. Ça veut dire que quand tu vas le recréer, tu vas avoir deux bases de données qui sont toujours connectées entre elles et donc reproduire cette connexion à chaque fois.
Ok.
Ce qui est assez puissant.
Ok. Ouais, là, c'est.
Ah ouais, on rentre dans...
Ouais, Inception, comme tu dis.
Ouais, vraiment. C'est toujours ça. C'est toujours ce à quoi ça me fait penser. C'est, je vois la scène dans Inception quand la ville se retourne et vient se poser parfaitement. Les toits de Paris qui viennent se reposer sur les toits de Paris et tu te retrouves dans un monde fermé, complètement dingue.
Ah ouais, non, c'est clair. Écoute, on a vu pas mal de fonctionnalités. Est-ce que tu as des exemples, ça c'est ce que je voulais te demander tout à l'heure, et puis un petit peu de clients à qui vous auriez proposé Notion, et qui auraient commencé à l'utiliser?
J'en ai. Alors généralement, ça se fait un peu sur la même base que la manière dont nous on l'utilise. C'est des clients qui voient généralement notre espace de travail et qui nous disent bah, « Tiens, nous aussi, on voudrait ça. Okay. » Ça, c'est le cas le plus fréquent. Et du coup, après, bah, ils l'adaptent à leur manière de travailler. Ouais, j'ai un cas précis que j'aime bien. On a un client qui fait une agence de prospection, en fait, donc qui organise des campagnes de prospection pour des entreprises de services B2B. Et en fait, ils ont toute une checklist de choses à faire quand ils démarrent une mission. Et il y a 70 ou 80 tâches. Donc c'est un peu embêtant. À la base, ils avaient ça dans Asana. Mais c'est un peu embêtant parce que c'est connecté à plein d'autres documents, en fait. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dans Notion. Et bah maintenant, ils ont un template. Et quand ils ont un nouveau client, bah, ils appuient sur un bouton. Et donc, tu as cette liste de tâches qui se crée automatiquement avec les documents auxquels ça se connecte. Et du coup, ils gèrent tout ça maintenant dans Notion.
Et c'est vous qui leur avez fait ou vous les avez accompagnés pour le faire
Alors ouais, on les a accompagnés pour le faire.
Et donc
ouais.
Maintenant, en même temps, eux, ils ont construit ça, ils ont pris en main et puis ils peuvent le faire évoluer.
Exactement.
Ça, c'est la démarche à mon avis. Enfin, pour moi, c'est un peu la promesse de Notion et du no-code en général. C'est vraiment ce côté fournir les outils et pas faire pour les gens, mais les accompagner à faire.
Exactement.
Et puis après, ils sont autonomes.
Et après, aujourd'hui, je pense que le problème majeur, c'est plus la capacité d'utilisation des outils. En tout cas, pour nos clients, hein. c'est pas la capacité d'utilisation, c'est vraiment le temps. C'est des gens qui n'ont pas le temps, tu vois. Ils utilisent des outils, mais il n'y a personne qui a 2 heures dans la journée pour apprendre à utiliser un outil, quoi. Ça, c'est un peu le problème.
Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose dont on parlait un petit peu avant l'émission, qu'ils ne savent pas aussi forcément déjà, un, que les outils existent, ou comment travailler en fait avec ces outils, tu vois, ils ne savent pas juste comment travailler et donc trouver les outils qui vont avec, quoi. Et donc l'outil va les guider un peu...
Ouais, c'est certain. Déjà, tu peux pas connaître tous les. Enfin, c'est très difficile de connaître tous les outils, tu vois. Même nous, non, c'est vraiment le job. Mmh. On connaît beaucoup d'outils. On peut pas les connaître tous, et surtout, on peut pas être expert sur tous, parce qu'il y a des outils qui sortent tous les jours. Il y a beaucoup, beaucoup d'outils exceptionnels et très puissants. Si tu prends par exemple la sphère CRM ou gestion de projet, la quantité de CRM incroyable qu'il y a. On a fait là très récemment une mission sur de la sélection de CRM. C'est l'offre, elle est pléthorique, quoi. C'est que des outils exceptionnels, que tu prennes Base, Pipedrive, NetHunt, Streak, etc. Enfin, il y a plein de CRM qui sont top.
Qui proposent des approches différentes,
mais certains qui proposent aussi des approches très semblables.
Ouais.
Où c'est difficile de.
Oui, après, dans les CRM, je pense que bon, globalement,
Alors, dans les CRM, je pense que t'as encore beaucoup d'approches différentes, parce qu'il y a plein de manières différentes de gérer ses sales et plein de types de boîtes différentes aussi. Est-ce que tu vends des produits? Est-ce que tu vends des services? Est-ce que t'es centré sur l'offre et la relation client, ou est-ce que t'es centré plutôt sur la prospection et les campagnes automatisées à des très gros volumes de clients, ou est-ce que c'est plutôt des petits clients avec qui il faut gérer la relation? Donc il y a encore plein de fonctionnalités différentes. Mais sur de la gestion de projet, par exemple, franchement, Asana, Monday, et même Trello en version plus.
Effectivement, ça, je pense, c'est un meilleur exemple où c'est vraiment des parties pris différents. Mais c'est là où, justement, peut-être que il y a un truc à faire, à conseiller la bonne boîte vers le bon outil, et qui après ensuite va se laisser guider par l'outil, quoi, par la manière de faire de l'outil.
Carrément.
Et comme ça, il rentre un peu dans ce work OS, comme tu disais.
Exact, ouais.
Et puis,
il faut le créer, en fait. Il y a deux éléments qui sont importants. Il y a l'outil en lui-même, et il y a la capacité de l'outil de s'intégrer avec l'environnement de travail que tu as déjà ou que tu veux créer. Donc, par exemple, tu vois, on ne va pas proposer Monday à une boîte qui fonctionne avec Teams ou Microsoft, tu vois. Parce que Monday, ça fonctionne avec Google. Et c'est fait pour. Et l'intégration, elle est faite comme ça. Et on va pas. Alors qu'un Trello va s'intégrer directement dans Teams avec un tableau dans ton espace de travail Teams, et où tu vas pouvoir suivre tes données à cet endroit-là. Ouais, donc c'est important aussi d'être capable de faire le lien entre des outils qui vont ensemble ou pas ensemble. Et de créer donc cet environnement de travail, ce work OS, qui n'est pas forcément basé sur un seul outil, qui est basé sur plusieurs, mais qui doivent être compatibles.
Ouais, c'est vraiment cette approche un peu modulaire qu'on retrouve même dans la conception d'appli, etc., no code, mais là appliqué vraiment à l'organisation des entreprises.
Ouais, exactement.
Et alors, justement, un peu pour en revenir sur Notion, comment ça s'intègre, qu'est-ce qu'il y a comme outil qui fonctionne bien avec, voilà, justement un petit peu quel est cet écosystème qu'on peut créer.
Quel est l'écosystème Notion? Alors il y a une limitation aujourd'hui dans Notion. C'est qu'il n'y a pas d'intégration via API. Donc aujourd'hui, ce n'est pas possible de connecter Notion comme on veut et de déclencher des actions automatiques qui vont mener vers d'autres applications. C'est en cours de développement.
Il n'y a ni API donc REST pour des développeurs, ni intégration Zapier.
Ni intégration Zapier.
C'est un peu lié logiquement en général quand il n'y a pas d'API, Zapier ne peut pas s'intégrer. Mais exactement. Des fois, il y a des deals qui se font...
Oui, sur certaines applications, mais en tout cas, ce n'est pas le cas chez Notion. Bah, ça s'explique par le fait que l'application est très très large, qu'il y aura énormément de déclencheurs et énormément d'actions, et que du coup, je pense qu'ils prennent le temps de bien bosser. C'est ça en interne pour que... Alors, c'est sur leur roadmap, on le sait. C'est sur leur roadmap depuis un an déjà, ou un an et demi. Tout le monde l'attend avec impatience. Sûr. Le jour où ça va sortir, ça va être une vraie bombe. Mais donc, en attendant, voilà, ce truc-là n'existe pas. Ça veut dire que l'environnement de travail de Notion, il est très spécifique aujourd'hui et quand même relativement fermé. Donc, ça s'intègre par exemple à Google Drive. Donc, pour des gens qui utilisent la G Suite, c'est un bon choix. Ça va avoir des intégrations avec des applications comme Loom par exemple, donc Loom qui sert à faire des captures d'écran vidéo et à partager ces vidéos via un lien que j'adore, que j'utilise tout le temps. Ça va s'intégrer avec Figma pour faire du design d'interface. Ça va s'intégrer avec Typeform pour les formulaires. Gros utilisateur de Typeform aussi chez The Toolbox et chez Notion.
Et ça, c'est des intégrations sous la forme d'embed dans les documents.
Exactement. C'est des intégrations qui vont se faire dans les documents, et c'est des intégrations qui sont vraiment natives, par contre. Dans tes pages. Donc, il y a, en fait, sur Notion, on ne l'a pas dit au début, alors que pourtant, c'est vrai que c'est quand même la base. Tout fonctionne avec des commandes. Donc, au début d'une ligne, d'un bloc, tu tapes slash, et tu vas avoir toute la liste de ce qui est possible de créer dans ton bloc. Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est un titre? Est-ce que c'est un embed? Et donc là, en fait, si tu tapes slash L, tu vas directement avoir Loom qui apparaît. Et donc, tu mets Loom, il y a une petite case qui se met avec Loom embed. Tu cliques dessus, tu mets ton lien Loom et hop, la vidéo apparaît. C'est aussi simple
que ça. Pour préciser que ce truc des commandes avec les slash, comme il y a un peu sur Slack ou de plus en plus d'outils, c'est hyper pratique, mais c'est pas obligatoire.
C'est pas obligatoire.
Tu peux aussi faire en mode clic, je dis ça pour les utilisateurs un peu moins avancés, ou au début, quand t'as pas encore pris l'habitude, t'as le petit bouton plus, t'as la liste qui apparaît, exact. Tu fais avec ta souris. Et puis c'est vrai que en fait très vite tu prends l'habitude.
Bah ça va
parce
que
du coup c'est comme si tu tapais, tu faisais ton Google Doc avant. Enfin là tu tapes. En fait c'est même pas comme un Google Doc, c'est plutôt comme quand t'es un développeur. Ce truc des commandes c'est vraiment. En fait on en revient un petit peu à ce que tu disais au début. Il y a beaucoup d'inspiration de développeurs. C'est comme la ligne de commande. Enfin voilà, hop, tu tapes, tu mets en gras avec des étoiles. En fait, ta souris, tu peux ne jamais l'utiliser. Quoi.
Tu peux l'utiliser très peu. Et moi, c'est ce que j'encourage les gens à faire quand ils travaillent beaucoup sur Notion ou sur des outils comme ça. En fait, de la même manière que t'apprends un programme. Ou que tu fais une formation sur n'importe quelle compétence. C'est vrai que dans Notion, il y a des raccourcis. Et ces raccourcis, si tu sais les utiliser, tu gagnes encore plus de temps, en fait.
Ah bah ouais, c'est clair. C'est un peu, je pense qu'il y a peu de gens, par exemple, enfin, pas assez en tout cas, à mon avis, qui utilisent les commandes sur Slack, alors que c'est hyper pratique, quoi.
Bien sûr, ouais, c'est la même chose. C'est vrai qu'on ne prend pas forcément le temps d'utiliser ces commandes, mais c'est un problème qui est en fait beaucoup plus large, je pense. C'est qu'aujourd'hui, en entreprise, on ne prend pas le temps. Alors que c'est vraiment nécessaire, hein. Il faut prendre le temps d'apprendre, il faut prendre le temps d'expérimenter, il faut prendre le temps de se tromper. Et c'est vrai que c'est compliqué pour des entreprises qui fonctionnent en flux tendu et dans lesquelles personne n'a le temps. Mais justement, je pense que c'est le rôle des outils de permettre d'automatiser certaines choses, de permettre de retrouver un peu de temps. Et après, c'est aux dirigeants de l'entreprise de voir ce qu'on fait avec ce temps. Mais à mon sens, c'est un temps qui doit être utilisé justement pour faire des expérimentations, pour apprendre, pour devenir plus efficace.
Moi, je dirais aussi que c'est du temps qui doit être soit pris en amont, soit qui est dans le temps qui est dégagé pour faire de la formation.
Carrément,
pour se former,
c'est ça.
Tu vois, comme on propose. Pour moi, c'est ça. Les gens ne prennent pas conscience qu'il vaudrait mieux investir des fois un jour de formation.
Carrément.
Pour apprendre les bons usages. Après, derrière, tu gagnes des jours et des jours.
C'est clair.
Enfin, quand on voit les tâches répétitives que les gens font, ou alors pas que les tâches répétitives, ça c'est un sujet qu'on a pas mal abordé dans l'épisode avec Zapier, Integroma, tout ça. Mais là, on n'est même pas sur des tâches répétitives, on est sur la bonne utilisation des outils. Et donc, par exemple, apprendre
à utiliser... C'est de la micro-tâche, en fait.
Voilà,
c'est de l'optimisation du fonctionnement. Avec ta souris, tu fais slash.
Exactement.
Et c'est, en fait, il faut juste le savoir et il faut réussir à faire évoluer sa pratique. Mais tu vois, dans la formation, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'arriver à faire de la formation, mais surtout de l'action. Parce que rester devant un mec qui va t'expliquer pendant une journée comment l'outil s'utilise, etc., avec un outil, c'est pas nécessaire. Faut vraiment rentrer dans le vif du sujet. Chacun son ordi, on le fait, on teste.
Mais ça, c'est un truc pour moi qui peut faire, par exemple, partie de l'onboarding des nouveaux salariés. Ça, c'est quelque chose que Erwan, mon associé, faisait, par exemple, à Simplon. Dans l'onboarding, il montrait tous les raccourcis dans Google Drive, dans Google Sheets, etc. Et puis il y a des choses, voilà, tu apprends quelques raccourcis, ou dans Trello par exemple, et tu gagnes énormément de temps, quoi. Donc ça peut s'inscrire un peu là-dedans, ou au sens large, après, vraiment dans des formations.
Ouais, aujourd'hui c'est des basiques. Je sais plus qui dit ça, mais qu'au 21e siècle, toutes les boîtes sont des boîtes tech. Et je trouve qu'il y a un côté assez vrai là-dedans. Alors, pas forcément au sens que le produit ou le service qui est vendu par la boîte doit être technologique. Mais c'est ça. Au sens que si ta boîte, elle ne fonctionne pas avec les outils d'aujourd'hui, ça ira pas. Et qui dit fonctionner avec les outils d'aujourd'hui dit fonctionner avec les méthodes d'utilisation et les best practices, les bonnes pratiques de ces outils-là.
Ça, c'est vraiment parmi les choses que vous proposez justement avec The Toolbox, quoi.
Ouais, carrément. C'est vraiment notre rôle. Et puis, au-delà du rôle, je pense que c'est vraiment notre vision de l'entreprise de demain et ce qu'on essaye d'insuffler à nos clients.
Je pense qu'il y a vraiment besoin. Et j'espère que du coup, cet épisode là convaincra un peu les gens. Parce que, non, mais vraiment, sincèrement, je trouve que c'est une super mission parce qu'on peut libérer du temps aux gens, leur apprendre à mieux travailler, à être plus en harmonie avec eux-mêmes et avec leur.
Et c'est
travail,
hyper nécessaire aujourd'hui. Hein. Je pense que on le voit au niveau des outils, mais c'est beaucoup plus large que ça. On est dans une société qui produit. Et en fait, à un moment, faut peut-être se pencher un peu sur le résultat aussi. Tu vois, c'est comme quand on produit de la nourriture dans tous les sens et qu'on se rend compte qu'il y a, je sais plus, c'est un tiers, je crois, de l'ensemble
gâché,
de la nourriture,
ouais,
qui est gaspillée. Tu vois, ouais, alors qu'il y a encore des gens qui meurent de faim. En fait, on est dans une société qui est pas efficace.
Et on gaspille beaucoup de notre temps.
On gaspille beaucoup de notre temps, on gaspille beaucoup de nos ressources, alors que ces ressources, elles sont limitées. Et la plus limitée de toutes ces ressources, c'est le temps. En fait, on gaspille des heures tous les jours. Mais c'est un truc de malade. Hein. Je veux dire, avec les outils, y a certains... dans certaines boîtes, t'arrives, t'interroges les gens et tu te rends compte que les mecs, ils perdent, mais c'est pas une blague, 50% de leur temps.
Ah ouais, putain,
vraiment, t'as la moitié de leur journée qui est passée à faire des trucs que tu peux automatiser en 2 semaines, quoi.
Ouais, non, j'imagine. Ouais.
C'est dingue.
Mais ça, c'est vraiment, ça rejoint un peu tout cette notion de productivité. Enfin, c'est un mot qui est moche, qui ramène un peu à l'époque soviétique et tout. Mais pourtant, moi, je
les
crois vachement à ça.
Ouais,
voilà, mais moi, je crois vachement à ça. Tu vois, il faut que tout le monde soit plus efficace. Peut-être que l'efficacité, l'efficience, c'est des mots qui sont un peu plus sympas. Mais...
C'est vrai qu'il faut travailler sur le jargon. Nous, on utilise beaucoup le terme d'efficacité. J'aime beaucoup le terme d'efficience, mais les gens savent pas trop ce que ça veut dire.
Ouais, ils font pas bien la différence.
Ouais, ils font pas trop la différence. Alors, on utilise plutôt efficacité que productivité. Productivité, c'est vrai que c'est trop violent. Ouais. C'est vrai que ça fait vraiment Union soviétique, partage des ressources et tout le monde bosse comme des malades et personne n'a rien. Mais dans la notion d'efficacité surtout, c'est-à-dire de réussir à faire quelque chose bien en le moins de temps possible.
Ouais.
Et ça, ouais, c'est quelque chose sur lequel on a tous un peu de boulot, je pense.
Ouais, non, c'est clair. Et puis se libérer du temps. Moi, j'aime bien, je ne sais pas si tu connais le livre « La 25e heure ». Sur la productivité.
Et j'ai pas lu la 25e heure, mais je connais.
J'aurais dû te l'amener, alors. Ouais. La prochaine fois qu'on se verra, alors je te l'offrirai. On a interrogé un des co-auteurs dans ce podcast. Et moi, j'aime beaucoup quand ils disent, c'est un livre sur la productivité, ils utilisent ce mot, mais ils disent, voilà, le temps qu'on dégage, cette 25e heure, par exemple, et tu la passes à faire autre chose, quoi. C'est pas pour gagner, pour plus produire, c'est pour vivre sa vie.
Carrément.
Et moins travailler dans un sens, quoi.
Je pense que dans le même sens, t'as le bouquin de Tim Ferriss, qui est très connu, ouais, la semaine de 4 heures. Et il y a une tendance que j'adore, sur laquelle j'ai acheté 2 bouquins, qui s'appelle Company of One et Small Giants, qui est cette tendance en fait de petites boîtes qui font le choix d'être bonnes, si on veut. Enfin, c'est companies who choose to be great instead of big.
Ouais.
Donc des entreprises qui préfèrent être belles et bien fonctionner plutôt que de devenir très grandes. Et je trouve que, oui, Company of One, alors là, on est dans un extrême total qui est de dire t'es tout seul dans ta boîte et tu fais 1 million par an, quoi.
Ouais.
C'est l'idée. Et donc, de se dire qu'en automatisant, en créant des modèles, en fait, des patterns qu'on peut reproduire, en fait, on va réussir à être très, très efficace. Et ce que j'aime dans le principe de Small Giants aussi, c'est des entreprises qui disent, nous, on est mieux à un petit nombre à faire quelque chose qu'on aime, à produire un service qu'on aime et à remplir pleinement notre mission, plutôt que d'essayer de posséder tout le marché, en fait. C'est comme si ouais. aujourd'hui, les gens, ça leur suffisait pas de marquer le marché, tu vois, de make a dent vraiment, donc de faire leur petite trace. Il faut avoir tout le marché.
Ouais.
Vraiment une espèce de compétition winner takes all. On va aller chercher l'entièreté.
Faut être les plus gros.
Exactement. Faut être absolument les plus gros. Faut lever le plus d'argent possible. Faut ci, faut ça. Alors que moi, je suis pas d'accord, en fait. Je pense que le travail, c'est faut se faire plaisir. Faut être heureux dans ce qu'on fait. Mmh. Si tu construis une boîte, t'es entrepreneur, tu vas y passer une partie de ta vie. C'est pas pour produire du capital, c'est de la valeur qu'il faut produire, tu vois.
Non, on est très d'accord. On parlait tout à l'heure des outils de gestion de projet. Nous, qu'on admire énormément en termes de boîte, c'est Basecamp.
C'est incroyable, Basecamp.
Vraiment, dans ce que tu disais, là, on retrouve vraiment leur vision et on essaie de suivre ça aussi vachement, quoi.
Ouais, je pense que c'est une tendance qui va se développer de plus en plus. Et c'est vrai qu'il y a des gros mastodontes de la tech, les mecs qui fournissent l'architecture, on peut pas imaginer comment ils seraient pas gigantesques. Mais à un plus petit niveau, je pense que dans la production, pour fournir des services, le but c'est de construire une belle boîte efficace, d'avoir des gens qui sont heureux dans ta boîte, qui n'ont pas envie de partir, qui sont bien, avec des clients qui sont bien et qui n'ont pas envie de partir non plus, quoi. Ouais. Et de développer ça dans un monde où c'est efficace et où on va essayer d'extraire le maximum de la valeur avec le moins de ressources possible.
Ça devrait être ça, quoi.
C'est pas la
philosophie de tout le monde, malheureusement. Alors pour finir, on va revenir juste un tout petit peu sur Notion. J'avais encore 2-3 questions un petit peu plus périphériques. Je voulais bien que tu me dises quelques mots sur la boîte Notion en tant que telle, parce qu'on, enfin les gens derrière, justement, tu vois, ça fait peut-être un lien avec ce dont on était en train de parler, parce que ça m'intéresse, on l'a pas fait un peu plus tôt. Mais...
Ouais, alors c'est vrai que Notion, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Donc ce qu'il faut savoir sur Notion, c'est que la boîte, donc il y avait une première version de l'outil, la boîte a failli se planter, et puis ils ont fait ce Notion 2.0, qui est aujourd'hui un des plus gros succès d'appli qu'on a jamais vu. Hein. C'est une boîte où il y avait jusqu'à il y a peu de temps, il y avait 25 ou 30 salariés et les mecs ont levé 10 millions d'euros à une valorisation de 800 millions. Okay. Donc c'est...
Vraiment d'être des licornes.
Voilà. En fait, ils le sont déjà. Pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui aiment suivre les levées de fonds, ou le marché de l'investissement en startup, c'est quelque chose qui arrive pas très souvent, de lever aussi peu à une aussi grosse valorisation. Ils ont plus de 10 000 sign-up par jour, 10 000 nouveaux utilisateurs par jour, il faut se rendre compte un peu du truc. Ça veut dire que ça va très très vite. Aujourd'hui, il y a, je pense, plus de 3 millions, enfin, bientôt 3 millions, ou peut-être qu'ils ont dépassé le palier maintenant de 3 millions d'utilisateurs, ce qui est
énorme,
assez impressionnant aussi pour un outil qui est si jeune. Et pourtant, c'est une toute petite équipe. Ils sont 50 aujourd'hui. Okay. Ils sont en train de recruter.
C'est que ça devient une équipe quand même.
Et pour une boîte qui vaut 1 milliard, 50 personnes, c'est pas beaucoup. Hein.
C'est pas faux.
C'est vraiment pas énorme. Et donc c'est une toute petite équipe. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que c'est des gens qui sont passionnés en fait par le futur du travail, qui ont une vraie vision à ce niveau-là. Le but, c'est pas juste de construire un outil. Le but, c'est de réinventer la façon dont les gens travaillent. C'est des gens qui sont passionnés par la culture du travail, par l'histoire de l'informatique. Ils ont une très belle histoire d'ailleurs sur leur site. Si tu regardes, pourquoi est-ce qu'il y a une page qui s'appelle Why We Build Notion?
Et qui est faite avec Notion.
Qui est faite évidemment avec Notion. Et où ils t'expliquent un petit peu toute leur vision. Et cette philosophie, moi, elle me touche parce que j'ai peut-être un background aussi de designer et que j'aime beaucoup la tech. Mais cette philosophie, elle me touche parce que je la trouve vraie et tu sens qu'ils la vivent aussi, eux. Et pour donner un exemple de Lily qui travaille au Customer Success chez Notion, c'est une fille qui a fait une école d'art et qui a étudié l'histoire de la technologie. Et donc, elle se retrouve aujourd'hui Customer Success chez Notion, mais tu sens que c'est ce genre de profil-là qui vont aller chercher. C'est des gens qui sont, pour la relation que j'ai avec eux, extrêmement bienveillants, qui travaillent sur leurs produits et qui savent exactement ce qu'ils font. Et du coup, ouais, très, très belle team. Et ils sont basés à San Francisco aussi. Okay. Ils ne travaillent pas en remote. Ils bossent que avec des gens à San Francisco.
Okay. Bon, on ira leur dire bonjour quand on ira à la NoCode Conf en novembre. Ok, alors il y avait deux dernières questions par rapport à Notion. Si tu veux juste rapidement expliquer leur pricing, enfin, qui est d'ailleurs.
Ouais, bien sûr. Donc, il y a une version, il y a beaucoup d'usages gratuits de Notion. C'est gratuit pour les étudiants. C'est gratuit, je pense, aussi pour les associations. Et il y a des plans start-up qui permettent que ça reste gratuit ou presque gratuit pour un gros moment. Donc, ça, c'est un premier point positif. Ensuite, ils ont trois types de pricing. Je pense qu'ils ont un pricing solo, 4 euros par mois si tu es tout seul. Ils ont un pricing team qui est 8 ou 10 euros. Enfin, c'est peut-être des dollars. 8 ou 10 euros par mois selon si tu le prends, je pense, en annuel ou en mensuel. Et donc, qui te permet de travailler en équipe sur ton workspace.
Ouais, pour chaque membre, par contre, c'est 8.
Oui, c'est ça, c'est par membre. Ce qui est intéressant, hein, parce que si tu réfléchis, tu as besoin d'un outil de prise de notes, de gestion de projet à la fois, de base de données, tu te retrouves vite à empiler les abonnements et ça peut coûter cher. Et puis tu as un plan entreprise qui est donc un plan avec un sign-up unique, c'est vraiment pour les plus grosses boîtes avec plus de fonctions de confidentialité, plus de fonctions de partage et d'attribution en fait des accès. Et donc ce forfait là il est à 20 dollars je pense par mois.
Ok.
Payable annuellement sûrement. Okay. Donc voilà, globalement c'est pas un outil qui est très cher et surtout par rapport à la puissance qu'il a.
Honnêtement je le trouve hyper abordable quoi, c'est-à-dire que je me suis retrouvé en fait assez vite à payer parce que donc en fait la limite quand on est sur le plan, enfin quand on est en gratuit perso,
c'est
1000 blocs et donc en fait 1000 blocs finalement ça va assez vite.
Ça va vite, ouais.
Parce qu'en fait quand j'ai commencé à être freelance là il y a un an et demi, j'ai commencé à organiser toute ma vie en fait avec quoi. Et donc je suis arrivé vite à 1000 blocs, mais quand je suis arrivé à 1000 blocs, j'étais déjà tellement convaincu, je me suis pas posé la question une minute de payer les 4. Plus il y a une frontière psychologique, je pense à 5 euros, je pense 5 dollars. Donc 4, bon hop, j'ai payé direct. Enfin, en plus, il y a quelques bonus, je crois, au début, enfin, quand je sais plus, j'ai invité des personnes.
Ouais, c'est ça. Si tu utilises leur web clipper, que tu invites des personnes, téléchargent l'appli, tu gagnes du crédit.
Donc en plus, quelques mois, j'ai
deux,
pas payé.
2, 3, 4 mois.
Ouais, ouais. Donc ça, c'était génial. Et en fait, en plus, il y a un truc. Alors je pense que tôt ou tard, en tant que contournement, on va passer au forfait, enfin payé par membre. Mais là, moi par exemple, je suis le seul en fait à payer et j'ai une page contournement que j'ai partagée à mon associé dans laquelle on a énormément de données, enfin énormément de choses, mais lui il paye pas quoi. Et il modifie, on interagit. Sur certaines sous-pages, on invite d'autres gens à commenter, etc.
Qui paye pas non plus.
Et ça, je trouve ça extraordinaire.
Ah,
aussi,
c'est génial. C'est très ouvert. Et en fait, quand on fait ça intelligemment, oui, il y a moyen de pas payer ça cher du tout. Parce que tu peux avoir autant d'invités que tu veux sur ton espace de travail. En fait. Ouais.
Ça, je trouve ça hyper, hyper nice, j'ai envie de dire, de leur part. Tu vois, c'est hyper démocratique.
Ouais,
tu vois,
non, mais c'est vraiment c'est une appli assez exceptionnelle. Hein. Et même depuis le tout début, c'est... Ils ont une très belle vision en fait de leurs produits, du monde de la tech en général. Et
est-ce que tu sais un petit peu justement qu'est-ce qu'il y a sur leur roadmap?
Ouais, il y a l'API déjà.
Ouais,
ça devrait arriver.
Attends.
Il y a un gros redesign aussi de la base des bases de données en fait. Donc ils ont construit les bases de données une première fois, mais elles ont quand même encore aujourd'hui beaucoup de pistes d'amélioration. Au niveau par exemple de la gestion des propriétés, si tu mets beaucoup de propriétés, c'est difficile de t'y retrouver. Il faudrait pouvoir les trier ou les cacher. C'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Tu peux pas bloquer la première colonne. Si tu travailles avec une première colonne nom par exemple et que tu as beaucoup de colonnes, quand tu vas aller dans les dernières colonnes que tu vas appuyer sur ton écran, tu sais plus forcément sur quel record est-ce que tu es en train de travailler. Donc ça c'est un peu casse-pied aussi, c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler. Et globalement tout un redesign en fait des bases de données. Et après, donc ça c'est les deux gros projets je pense. Et après, toute leur roadmap est accessible en fait en ligne. Donc on peut voir sur quoi est-ce qu'ils sont en train de, de travailler.
Est-ce que les gens peuvent voter pour des features, suggérer des features?
Alors ils peuvent suggérer, on peut suggérer des nouvelles fonctionnalités. Et il y a une grosse communauté Notion vraiment super active.
Ouais, il y a un meet-up à Paris par exemple. Ouais. Enfin, j'ai vu qu'il y a des meet-up dans plusieurs villes.
Il y a des meet-up dans plusieurs villes. Eux font souvent des tours aussi où ils se baladent et où ils vont faire des ateliers sur Notion dans différentes villes. Il y a beaucoup de gens qui partagent leur modèle. Donc il y a plein de templates en fait, au-delà même des templates de Notion, il y a plein de templates qui sont faits par des utilisateurs, dont certains qui ont passé tu vois qu'il y en a qui se sont amusés quoi, des trucs un peu fous, des gamifications de ta vie avec les routines du matin, enfin et des fonctions dans tous les sens avec ton petit personnage qui monte de niveau, enfin c'est n'importe quoi. Vraiment qui se sont chauffés
super,
quoi.
Hein, franchement je trouve ça extraordinaire. Voilà. Communauté, hein, c'est ce qu'on voit un peu sur les différents outils no code auxquels on s'intéresse. C'est quand même souvent la communauté qui fait aussi la différence quoi.
Ouais, je pense ouais, c'est quelque chose de très important.
C'est génial. Ouais. Ouais, écoute, on a bien évoqué le sujet. Ah oui, si, moi, il y a un truc, je sais pas, je le dis comme ça, si jamais un jour ils écoutent cette émission, en plus tu disais qu'ils sont plusieurs à parler français dans l'équipe. Moi, c'est l'appli mobile c'est le seul truc elle fonctionne.
Elle est un peu lente.
Elle est un peu lente.
Ouais.
Je trouve qu'elle est un peu lente. Alors, je suppose que c'est une WebView, je sais pas, enfin, et donc, elle est pas très réactive. Et ça, c'est un truc qui m'embête un peu parce que c'est quand même vachement utile aussi sur mobile. Donc moi, je l'utilise pas vraiment pour ma prise de notes, etc. En fait, je n'utilise pas du coup Notion pour ma to-do list. Mmh. J'ai besoin d'un truc comme ça. Quand j'ai une idée, il faut que tout de suite je puisse la rentrer. Quoi. Donc ça, c'est le seul truc un petit peu qui me dérange. J'ai vu déjà qu'il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti une... Enfin, en tout cas, ils ont dit qu'il y avait des améliorations de performance. Ouais. Très franchement, je ne les ai pas trop sentis, mais...
Donc ouais, c'est vrai que c'est un des défauts ou une des critiques en fait qui revient souvent, c'est que l'appli est vraiment pas assez rapide et puis pas forcément assez accessible non plus. Moi, j'utilise Notion pour ma to-do, mais j'ai vraiment un tableau de to-do centralisé et du coup, j'ai quasiment que ça ouvert sur mon téléphone et c'est vrai que je note rien d'autre. La seule raison pour laquelle j'utilise sur mon téléphone qui est pratique, c'est que dans notre base de contact, on a les numéros de téléphone des personnes. Et donc, en appuyant sur le bouton téléphone, parce qu'il y a une case numéro de téléphone qui est enregistrée comme telle, ça appelle vraiment. Et donc, ça, c'est assez puissant et assez pratique. Du coup, je l'utilise quand même. Mais c'est vrai que je suis beaucoup plus tenté d'utiliser l'appli sur mon ordinateur parce qu'en plus, elle est en natif. Hein. T'es pas obligé de l'utiliser sur le web, tu télécharges une application. Je préfère utiliser Notion sur mon ordi que sur mon téléphone aussi.
Ouais, je pense que c'est le cas pas mal de gens. Ça correspond en plus à l'usage principal, à mon avis, c'est aussi sûrement pour ça qu'ils mettent pas non plus tout l'effort dans le.
Ça dépend aussi du modèle de téléphone que t'as, je pense. Parce que c'est vrai qu'après, tu vois, moi j'ai la chance d'avoir un des derniers iPhones. Du coup, l'écran est très grand, il est très rapide, c'est agréable de naviguer aussi là-dessus. Mais je pense à d'autres gens qui ont des smartphones un peu moins avancés avec des écrans plus petits, c'est mort.
Mais voilà, c'est peut-être vraiment une des seules choses qu'on peut reprocher. Ok, et écoute, super. Alors, la dernière question qu'on pose à tous les gens qui interviennent dans le podcast, c'est alors, si t'avais un side project à faire, en plus de ton activité, alors, avec Notion ou pas forcément, on va dire, mais en no-code, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que t'as une idée
Un side project en no-code Il y a un truc que j'aimerais bien faire, que je ferais, je pense, mais du coup, je sais pas si ça nécessite ça nécessiterait pas vraiment du no-code, mais j'aimerais bien aller faire un tour du Japon et tout documenter. Partir genre un an et il y a plein de trucs que j'ai envie de faire là-bas. Alors du coup, je pense que je le gérerais avec Notion, probablement.
Pourrais publier sur la mesure.
Ouais, et je voudrais publier beaucoup de trucs et je pourrais faire des guides et des cartes. Je pourrais le faire aussi avec Airtable, les endroits que j'aime bien, que j'ai visités et que je trouve cool. Ça, c'est un side project qui me plairait bien. Et après, si j'avais un truc en no code, une appli ou quelque chose comme ça. On est en train de faire un truc assez cool là, de faire un annuaire des no-codeurs pour rassembler tout le monde. Je pense que c'est le truc à faire en no-code que je vois pour l'instant et qui peut être bien marrant. Mais sinon,
c'est
déjà pas mal. Hein.
Du Japon, c'est pas mal. Je serai client, je suis un grand fan du Japon. Donc,
quel pays formidable.
Ouais, donc je suivrai
dans quelques années.
Je te le souhaite et je regarderai ça avec attention.
C'est cool, merci.
Et super, merci beaucoup pour ton temps.
Avec plaisir, merci pour ce podcast, c'était top.
Et puis à très bientôt.
À très bientôt, salut.
We'll be right back.